18h, vous êtes sur Europe 1.
Le Premier ministre nous a donné 10 jours complémentaires, enfin les 15 jours de complet, sans mesures nouvelles. Et on va tout faire avec le président de la métropole pour dire aux gens, attention, ça devient très grave.
A priori, pas de nouveau tour de vis sanitaire, dit Martine Aubry. A priori, mais les grandes métropoles devraient quand même être fermement priées de faire respecter les mesures déjà en vigueur.
Et on va en savoir plus dans quelques instants avec la conférence de presse, très attendue, d'Olivier Véran, ministre de la Santé.
L'INSERM lance un appel aux Français volontaires, y compris aux plus âgés, pour tester l'un des projets de vaccin contre le coronavirus. Elle a besoin de plus de 20 000 personnes.
Des mercenaires syriens envoyés par la Turquie dans le Haut-Karabakh. Emmanuel Macron dit en avoir la preuve. On en parlera évidemment avec la ministre des Armées, Florence Parly.
Alexei Navalny, l'opposant russe, accuse Poutine d'avoir commandité son empoisonnement. Il le dit dans la presse allemande et on vous racontera les coulisses de cet entretien.
Le foot est le coup d'envoi de la saison européenne avec le tirage au sort des groupes pour la Ligue des Champions. Réponse dans quelques secondes.
Et oui, Paris, Marseille et Rennes connaîtront bientôt, en tout cas leurs futurs adversaires, et vous les connaîtrez vous aussi si vous restez avec nous.
À Roland-Garros, heureusement qu'il y a la relève côté français, les petits jeunes qui font un peu oublier l'élimination des têtes d'affiche.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en légère hausse de 0,43%.
Et puis la tendance météo, attention, vigilance sur plusieurs départements à Nice en raison de la tempête Alex.
Oui, cette forte tempête arrive dans les prochaines heures sur la Bretagne. De violents orages vont également toucher le sud-est demain, avec notamment la fermeture des établissements scolaires dans les Alpes-Maritimes. Plusieurs départements en vigilance. Les prochaines heures et la journée de demain seront donc très agitées. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Paris, Lyon, Lille, Toulouse et Grenoble vont-elles échapper à de nouvelles mesures de restriction et notamment à la fermeture des bars et des restaurants, comme c'est le cas à Aix et à Marseille.
Oui, le ministre de la Santé doit s'exprimer dans quelques instants. On attend cette prise de parole d'Olivier Véran.
Mais on a déjà quelques indications, puisque ce matin, le Premier ministre a reçu à Matignon les élus de ces métropoles où la situation est très préoccupante d'un point de vue sanitaire. Et a priori, donc, ils auraient obtenu un répit, Adrien Beck.
Oui, la pression redescend un peu sur ces 5 métropoles. En fait, le gouvernement a fait évoluer sa doctrine. Pas de tour de vis supplémentaire avant d'avoir pu évaluer l'efficacité des premières mesures. On parle notamment de la fermeture des bars à 22h qui est entrée en vigueur il y a à peine 5 jours dans ces 5 villes. Confirmation de la maire de Lille, Martine Aubry, à la sortie de la réunion.
Le Premier ministre nous a donné 10 jours complémentaires, enfin les 15 jours de complet, sans mesures nouvelles. Et on va tout faire avec le président de la métropole pour continuer à communiquer, pour dire aux gens, attention, ça devient très grave, donc respectons les règles pour rediminuer et pour ne pas arriver à ce que nous ne voulons absolument pas, qui serait la fermeture des bars et des restaurants, comme cela a été fait à Marseille. Il faut que les vilains petits canards soient sanctionnés et il faut que tout le monde maintenant respecte les dernières mesures qui ont été prises.
En temporisant devant les élus, le Premier ministre redevient en tout cas le promoteur du dialogue avec les collectivités. Après le raté et la polémique de Marseille, satisfaction d'ailleurs chez les maires consultés ce matin. C'est notamment ce qu'on nous dit dans l'entourage de la maire de Paris, Anne Hidalgo. On n'aura aucun problème pour endosser les mesures s'il y a des discussions.
Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
On suivra évidemment ensemble cette conférence de presse du ministre de la Santé.
Le gouvernement qui espère donc que les mesures prises jusqu'à présent suffiront à endiguer la propagation de l'épidémie dans l'attente d'un vaccin. Alors ça n'est pas pour tout de suite bien sûr, mais les autorités sanitaires veulent mettre toutes les chances de leur côté. Et à cet effet, l'INSERM demande à tous les Français qui voudraient aider la recherche et qui sont prêts à tester l'un de ces projets de vaccin contre le Covid, de se faire connaître Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, et ça se passe via une plateforme en ligne, ça s'appelle covirevac.fr. Il suffit de s'inscrire et dans quelques temps, vous pourrez être sollicité pour tester un projet de vaccin. Et peu importe votre âge, pas besoin d'être jeune et en bonne santé pour être volontaire, explique le professeur Odile Launay qui coordonne cette plateforme.
On souhaite pouvoir évaluer ces vaccins chez les gens plus âgés. Encore une fois, 95% des décès sont survenus chez les plus de 65 ans. Donc on a absolument besoin de vérifier l'efficacité de ces vaccins, de démontrer l'efficacité de ces vaccins chez les gens plus âgés, qui sont des personnes qui, classiquement, répondent moins bien à la vaccination.
Alors, c'est complètement inédit en France, une plateforme de volontaires prêts à tester un vaccin. Et l'objectif pour l'INSERM, c'est d'atteindre 25 000 candidats.
25 000 sujets, c'est aussi ce qu'on a identifié comme étant le nombre de personnes nécessaires pour pouvoir conduire en même temps jusqu'à 3 essais de phase 3 et puis de pouvoir réaliser 4 ou 5 essais de phase 2 chez les sujets plus âgés.
Et à la mi-journée, déjà 1 millier de personnes s'étaient inscrites sur la plateforme.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois. Anissa Haddadi nous parlait tout à l'heure des très mauvaises conditions météo à venir de cette fameuse tempête Alex. Le Morbihan notamment est en vigilance rouge. Et le département des Alpes-Maritimes indique ce soir qu'au vu de ces prévisions, de ces retombées de cette tempête Alex, eh bien, tous les établissements scolaires vont rester fermés. Demain, les crèches également.
18h04, on part à l'étranger maintenant. Alors que la situation empire jour après jour dans le conflit qui oppose l'Azerbaïdjan à l'Arménie autour de la région du Haut-Karabakh, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Donald Trump appellent conjointement à un cessez-le-feu immédiat.
Oui, le président français qui s'est exprimé sur le sujet cet après-midi en marge du sommet européen de Bruxelles et qui affirme que des combattants syriens djihadistes seraient présents au Karabakh.
Nous disposons d'informations aujourd'hui, de manière certaine, qui indiquent que des combattants syriens ont quitté le théâtre d'opération, des combattants de groupes djihadistes, en transitant par Gaziantep pour rejoindre ce théâtre d'opération du Haut-Karabakh. C'est un fait très grave, nouveau, qui change aussi la donne. Nous allons d'abord en parler ici au Conseil européen. Nous sommes convenus avec le président Trump et le président Poutine de pouvoir échanger toutes les informations que nous avons sur cette situation et pouvoir en tirer toutes les conséquences. En tout cas, nous agirons pour un retour à la normale, un cessez-le-feu sans condition et un règlement de ce différend par la négociation et le droit.
Emmanuel Macron cet après-midi au micro d'Isabelle Horry à Bruxelles.
Oui, des combattants syriens infiltrés dans le Haut-Karabakh. On aura évidemment l'occasion d'y revenir avec la ministre des Armées Florence Parly dans quelques instants et dans le journal de 19h avec l'œil de Didier François.
Emmanuel Macron qui a également annoncé que la France préparait un avion pour rapatrier les deux journalistes du Monde qui ont été blessés ce matin dans cette région du Haut-Karabakh. Le j'accuse de l'opposant russe Alexei Navalny. Il affirme que Vladimir Poutine est derrière son empoisonnement et il promet qu'il va rentrer en Russie.
C'est sa toute première interview depuis sa sortie de l'hôpital. Il se confie au quotidien allemand Der Spiegel.
Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. On vous retrouve Hélène et vous venez de parler avec l'un des deux journalistes qui a réalisé justement cette interview, qui vous a raconté les coulisses de ces deux heures d'entretien dans une ambiance quasiment de film d'espionnage.
Oui, le rendez-vous a été avancé au tout dernier moment par l'entourage de Alexei Navalny qui a donc rencontré les journalistes du Spiegel à 6h du matin hier mercredi. Parmi eux, il y a Benjamin Bieder qui n'a été prévenu que quelques heures avant. Ce journaliste a été en poste à Moscou il y a quelques années et il a été stupéfait de retrouver le même Navalny qu'avant.
Avec son humour décoiffant, un type qui n'a pas la langue dans sa poche et qui dégage un air joyeux, presque guiré. Il est très clair dans ses propos, très concentré, très combatif aussi, comme avant. Cela m'a évidemment vraiment surpris compte tenu de ce qu'il a traversé.
Alors certes, l'opposant russe est fatigué, amaigri et surtout il a des séquelles physiques de son empoisonnement.
Quand il a pris sa bouteille d'eau, il a eu besoin des deux mains et ses deux mains tremblaient. Il espère récupérer à 90% au moins.
Alexei Navalny ne sait pas combien de temps va durer sa rééducation en Allemagne. Il passe aussi beaucoup d'examens en ce moment car les médecins s'intéressent de très près à son cas. En effet, c'est la première fois qu'on peut étudier les effets du poison Novichok sur un survivant.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. On précise que le Kremlin dénonce des accusations sans fondement et inacceptables.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h09, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Et on part maintenant à Roland-Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Corinne Boulou, on vous retrouve en direct, Corinne. Et après Hugo Gaston hier, dont vous nous parliez, c'est cette fois une jeune Française qui a créé la sensation aujourd'hui en s'invitant au troisième tour.
Oui, la relève du tennis français profite de ce Roland-Garros pour s'illustrer. Invitée par les organisateurs, Clara Burel, 19 ans, s'offre, comme Hugo Gaston, une place parmi les grands. La Bretonne, ancienne numéro 1 mondiale junior, 357e mondiale sur le circuit, a battu en 2-7 aujourd'hui une Slovène de son âge, 101e mondiale. Au troisième tour, samedi, elle sera opposée à la muraille chinoise Zhang, 39e mondiale, qui vient d'éliminer Alizé Cornet. À noter aussi la qualification express du numéro 1 mondial Novak Djokovic, troisième joueur de l'histoire à atteindre 70 victoires à Roland-Garros.
Merci beaucoup Corinne Boulou, en direct. Et puis le foot, Julien, est pratiquement la fin du suspense. Pour Paris, pour Rennes et pour Marseille avec, vous l'avez compris,
la Ligue des Champions.
Et oui, le tirage au sort des groupes. Alors c'est encore en cours, hein, c'est presque terminé. Cyril de la Morinerie, vous suivez ça de très très près pour nous. Oui. On rappelle qu'il y a trois clubs qui sont concernés cette année, Paris, Marseille et Rennes. On a déjà des infos pour Paris, hein, me semble-t-il. Hein.
Oui, écoutez, le Paris Saint-Germain va se retrouver dans le groupe H et ce sera l'heure des retrouvailles pour Paris qui va affronter Manchester United et Leipzig. Manchester United, c'était en 2019 une élimination du Paris Saint-Germain face à Manchester. Et Kimpembe avait été un acteur de cette rencontre en marquant au match aller et puis en provoquant un pénalty au match retour. Ce sera un gros match face au triple champion d'Europe, face à Pogba et Martial. On s'en réjouit d'avance. Et puis Leipzig, là, c'était cette saison, puisqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, eh bien, le Paris Saint-Germain avait battu Leipzig 3-0 avec des retrouvailles eh bien, avec Upamecano qui vient d'être sélectionné cet après-midi par Didier Deschamps en équipe de France. On attend donc eh bien, Marseille qui va faire son retour en Ligue des Champions depuis 2013. Et puis bien sûr Rennes, première participation, alors qu'il y a évidemment des groupes plus relevés que d'autres. Le plus gros relevé pour l'instant, c'est le groupe G avec la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo qui va affronter le FC Barcelone de Lionel Messi.
J'espère que Rennes ne va pas tomber dessus.
Et bien voilà. Et puis Marseille, ça peut être le groupe A, le groupe B, le groupe C ou le groupe D avec, dans le groupe D par exemple, Liverpool, vainqueur six fois de la Ligue des Champions de le club de Jürgen Klopp face à l'Ajax Amsterdam ou encore l'Atalanta Bergame. On va suivre ça évidemment, on aura le dénouement dans quelques minutes et puis à 19h l'analyse avec notre nouveau consultant Reynald Pedros.
Reynald Pedros,
ah oui,
qu'on sera
Pedros,
ravi d'accueillir dans ce journal de 19h.
Pour une première intervention à 19h effectivement. Il y a 4 groupes, c'est ça hein.
Alors il y a 8 groupes, 32 équipes et le Paris Saint-Germain se retrouve donc dans le dernier groupe, dans le 8e groupe, le groupe H.
Bien, merci Cyril pour ces précisions. Et à tout à l'heure Isabelle pour le rappel des titres à 18h30 et le grand journal de l'info à 19h. La météo avec Anissa qui nous annonce, attention, une grande prudence dans les prochaines heures.
Oui, la forte tempête Alex dont on vous parle depuis hier arrive en début de nuit sur la Bretagne et l'ouest des Pays de la Loire. Attention, une vigilance rouge, vent violent, a été mise sur le département du Morbihan. La vigilance orange, vent violent sur les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique. On attend là des rafales de 100 à 120 km/h dans les terres, 120 à 140 km/h sur le littoral, voire plus sur les caps. Sur la Vendée et le Sud Finistère, vigilance jaune pour fortes rafales là aussi jusqu'à 120 km/h. Une perturbation pluvieuse associée à cette tempête provoque des pluies très soutenues avec de forts cumuls donc demain sur la Bretagne. D'ailleurs, sur les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan, là aussi nous avons une vigilance orange, pluie inondation en plus du vent. Vigilance orange également crue, attention aux inondations dans le secteur de Morlaix. J'en ai pas fini puisque dans le sud-est, là, c'est un épisode méditerranéen qui est lié à cette dépression, Alex. En fait, la dépression plus la chaleur et l'humidité de la Méditerranée, ça provoque un épisode de forte intensité qui touche la région PACA avec la fermeture des écoles dans les Alpes-Maritimes.
Hein.
Alors là, très grande prudence. Sur les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et le Var, tous ces départements sont placés en vigilance orange aux orages. Ça va taper fort demain. Les pluies vont s'intensifier au fil des heures. Les cumuls de pluie jusqu'à samedi seront très importants. Sur le reste du pays, c'est une journée très agitée, avec des averses, quelques rayons de soleil à l'ouest. Mais ça sera vraiment très léger.
Bien, soyez donc prudents. Hein, et on vous retrouve, Anissa, pour un nouveau point météo à 18h30 et ensuite à 19h. Merci.